Le sport féminin est à l'honneur aussi dans le cadre de cette semaine sport et culture à Pierre-Bénite. Et puis, je veux dire que le sport féminin est très bien représenté maintenant par une grande dame. Vous vous rappelez qu'avec les bains, il y a un an, vous avez vu l'interview de Marion Rousse, et bien maintenant, elle va être la grande porte-flambeau. Mais on en a quand même une autre ici. Comment je dois vous appeler? Bonjour, qui êtes-vous?
Bonjour, Laurie Dakini, donc je suis directrice de l'Académie féminine de l'Olympique lyonnais.
Une académie. Ah bon? C'est quoi une académie?
Donc une académie, on peut dire c'est un centre de formation où on réunit toutes les équipes jeunes jusqu'aux pros. Donc les pros sont à part, mais on est là sur la formation des jeunes joueurs et jeunes joueuses.
Elle date de quand l'académie?
Alors l'académie date depuis plusieurs années, mais sur mes yeux depuis 2016.
Dites, quand on parle de l'aile féminine, on pense c'est Cléopâtre, c'est un palmarès, c'est monumental.
Oui, c'est une référence tant sur le niveau, on va dire, sur le plan national ou européen, même mondial, hein, j'ai envie de dire, c'est une référence sur le football féminin. Et on le doit à un grand monsieur qui est Monsieur Aulas, qui a vraiment mis les moyens pour développer le football féminin sur Lyon.
Ouais, c'est important parce que je crois que c'est l'un des premiers qui a cru dans le football féminin.
Alors on a la chance d'avoir Monsieur Aulas, il y a eu aussi Monsieur Nicolin à Montpellier qui a impulsé quelque chose, mais Monsieur Aulas a vraiment mis les moyens, tant humains que financiers aussi, parce que c'est aussi le nerf de la guerre dans le football professionnel. Mais il a cru au potentiel et maintenant les filles font partie aussi du plan de performance au niveau de Lyon. Et quand on voit le nombre de titres acquis au niveau national et européen, on se dit que c'est vraiment le fruit d'un beau travail.
Bon, est-ce que vous êtes prêt à me taper sur la tête maintenant?
Allez-y, je vous écoute.
Mais attendez, le foot, c'est pas pour les femmes.
Ça, c'est vous qui le dites, hein.
Mais je vous ai dit que vous alliez me taper sur la tête.
Non, c'est vrai que les idées reçues sur le football, c'est vrai qu'on entend, on entend beaucoup parler, mais ça s'est démocratisé depuis quelques années, notamment avec le plan de féminisation mis en place par la fédération à partir de 2011. On a vu qu'il y a vraiment une multiplication du nombre de licenciés. Là, on a quasiment à 200 000 licenciés, à la fois pratiquantes et aussi dirigeantes. On souhaite être une nation européenne et voire mondiale. Alors, ce qui nous manque au niveau national et au niveau de l'équipe de France, c'est au moins un podium, c'est un titre. Mais on a de beaux moyens mis en place sur la formation des jeunes joueuses et ça tend à bien se développer. Ouais.
C'est quoi le travail de tous les jours d'une directrice d'académie?
Alors, c'est de multiples missions, mais le but, forcément, c'est de suivre les jeunes talents, essayer de les amener au bout. Mais au-delà de ça, on est sur un triple projet. Il est sportif, mais il est scolaire aussi, parce qu'on a des joueuses qui sont scolarisées.
C'est très important, ça, ouais.
Très important, et aussi citoyen, parce qu'on est là aussi pour former les citoyennes et les futures femmes. Donc, on est sur un beau projet, et le but, c'est de pouvoir aussi coordonner tous les éducateurs et éducatrices qui sont en place, parce qu'on a 9 équipes féminines qui sont sur le site, allant des U9, donc les toutes petites, jusqu'au groupe post-formation qui est en dessous des pros. Donc ça fait beaucoup de monde, à peu près 140 licenciées féminines. Viennent s'ajouter aussi les garçons, donc il faut trouver une certaine relation avec la mixité. Mais c'est vraiment intéressant de travailler sur la formation des jeunes joueuses et de l'encadrement.
Ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'on est à Pierre-Bénite pour la semaine sport et culture et vous êtes là. C'est un peu l'objectif que de sortir pour se montrer.
Oui, c'est important parce que il faut aussi que le produit olympique lyonnais puisse s'expandre, enfin, on va dire, être à la fois sur le côté local, régional, national, voire même international. Et puis, on reste quand même une référence sur le sujet. Et je pense que c'est important de pouvoir s'ouvrir à d'autres, à la fois d'autres visions aussi, et de voir. C'est quoi l'envers du décor du très haut niveau? Parce que derrière, ça représente beaucoup de monde, beaucoup d'investissements, beaucoup de temps aussi investi. Et souvent, on a tendance à voir la partie immergée de l'iceberg, mais tout ce qui est en dessous, on a tendance un peu à l'oublier. Donc, c'est important d'en parler aussi.
Merci.
Merci à vous.
Petit à petit, le football féminin s'est développé. Donc, vers 11-12 ans, je me suis dirigée vers un club spécifique féminin qui s'appelle Hénin Beaumont, qui est une référence à l'époque dans le Pas-de-Calais, où j'ai fait mes gammes. J'étais en section sportive, après j'ai fait les sélections du district, après de la ligue, et puis j'ai commencé en division 1 à 17 ans. Donc j'ai eu cette chance de pouvoir commencer assez jeune. Par contre, à 17 ans, on ne commence pas les matchs tout le temps titulaire, on ne joue pas 90 minutes. Il m'a fallu du temps justement pour intégrer petit à petit l'équipe pro, même si c'était pas professionnel du tout à l'époque. Je vous expliquerai un petit peu le cursus après. Mais je me suis toujours attachée à mon rêve, c'était de jouer au plus haut niveau français. Et je l'ai fait, puisque après un beau moment, j'ai joué à Arras, donc Arras qui est aussi une ville dans le Pas-de-Calais qui maintenant est devenue le RC Lens, donc ça a migré sur ça. Et puis après j'ai signé au LOSC. Alors pour une fille qui vient de Lens, signer à Lille, c'est pas très bien vu, mais bon, ça se fait quand même. Et puis bon, j'ai fait une petite carrière à peu près entre 150 et 200 matchs en D1 et en D2. Donc comme je le disais, c'était pas forcément professionnel parce qu'on gagnait pas d'argent. Par contre, on jouait pour le maillot et limite parfois c'est peut-être un petit peu mieux de jouer vraiment pour sa passion. Donc ça c'est plutôt pour le côté pratique. J'ai arrêté de jouer, j'avais 28 ans, donc j'ai eu des problèmes de genoux. Malheureusement, les problèmes de genoux chez les filles, c'est récurrent et ça embête un petit peu, mais ça fait partie de la carrière. J'ai arrêté de jouer parce que j'ai eu un poste de conseillère technique départementale dans un district. Donc je m'occupais du développement à la fois du football féminin, mais pas que. Je m'occupais des détections, des sélections, des garçons, des filles du futsal, des formations des éducateurs. Je formais à peu près 300 éducateurs par année. J'aidais aussi à la structuration des clubs. Donc ça, c'était, entre guillemets, mon métier passion. Et puis, j'ai passé une formation qui s'appelle le certificat d'entraîneur de football féminin où j'ai rencontré Camille Abili. Donc Camille Abili, pour ceux qui ne connaissent pas, mais je pense qu'elle est quand même connue, une gloire du football français à la fois en équipe de France, mais aussi à Lyon. Et puis, de fil en aiguille, donc on sympathise. Et puis Sonia Bonpastor, qui était directrice de l'académie à l'époque.
Le coach principal de la D1 et lui quand même il m'a proposé ce poste là, est-ce que ça t'intéresse? J'ai pas trop réfléchi à vrai dire, quand on a une proposition de référence à la fois sur le plan national mais aussi européen, on fait vite ses valises et on débarque sur Lyon qui est une très belle ville, soit dit en passant, j'ai appris à découvrir aussi et ça s'est passé très vite et donc depuis juillet je suis directrice de l'académie féminine de l'Olympique Lyonnais à mon plus grand plaisir. Parce que quand on fait un métier passion comme ça, ça fait rêver, forcément. Donc, un grand plaisir d'être ici et puis d'être ici devant vous pour raconter mon histoire aussi. Voilà.
Merci, Laurie. Et pour ceux qui ne connaissent pas, donc, la différence, vous parliez de D1 et de D2.
Oui.
Donc, aujourd'hui, l'équipe professionnelle, elle évolue en D1.
En D1,
c'est bien ça?
Oui.
Et donc, du coup, la D2, c'est le niveau...
C'est le deuxième niveau français. Alors, il faut savoir que... Il n'y a pas autant d'équipes que chez les hommes. Donc, chez les hommes, le modèle, c'est Ligue 1, Ligue 2, Nationale, Nationale 2, Nationale 3, et ensuite les niveaux un peu régionaux. Nous, au niveau national, chez les filles, on n'a que la D1 et la D2. Et il y a les U19 filles qui jouent au niveau national aussi. Par contre, ça, c'est les seuls niveaux nationaux chez les filles.
D'accord. Donc, voilà. Donc à l'Olympique Lyonnais, on a tous ces trois niveaux-là.
Oui.
Au niveau de l'académie.
Oui, oui. Et on a aussi des jeunes. Alors, c'est un peu la particularité du projet de formation de l'Olympique Lyonnais. C'est qu'en fait, les jeunes pros, donc celles qui sont en pro 2, on va dire, ne sont pas inscrites dans un championnat. Alors on va dire, mais pourquoi? C'est une hérésie, c'est un peu bizarre. C'est qu'en fait, tout simplement, entre la D1 et l'équipe réserve, il faut deux niveaux d'écart. Donc ce qui voudrait dire que là, on serait au niveau régional avec des jeunes qui ont un potentiel pour jouer en professionnel. Et pour nous, c'est un petit peu compliqué. Donc on les a sortis du championnat. Par contre, on leur propose un projet très adapté dans le sens où on joue que contre des D2, donc des équipes seniors qui évoluent au deuxième niveau national. On joue contre des garçons. Alors des fois, on se dit, des filles qui jouent contre des garçons qui ont 15 ans, 16 ans. Par contre, la mixité, ça nous apporte ça. C'est qu'en fait, chez les garçons, ça va un petit peu plus vite. Ça va un petit peu plus au duel. Donc ça nous apporte ce côté un petit peu hargneux qui nous manque parfois parce qu'on a de très belles et de très bonnes joueuses. Par contre, il manque ce côté un petit peu hargne que j'ai, moi, que je viens du Nord. Parce que dans le Nord, on est, on va dire, sur ce côté un peu combattant. Enfin, moi, mon grand-père était mineur, donc j'ai eu toujours ça dans le sang. Et donc j'essaye un peu d'apporter ce côté-là aussi sur l'aspect défensif, c'est important. Parce qu'on a des jeunes joueuses qui ont toujours survolé leur championnat, et parfois il leur faut un peu de l'adversité pour travailler là-dessus. Et en dernier lieu, donc on joue contre des D2, on joue contre des garçons, mais on joue aussi contre des équipes européennes. On a reçu la Juventus de Turin en septembre. Là on aspire à aller au Bayern de Munich, puisque les filles qui jouent en Champions League les rencontrent. Donc on essaye de jouer avec les jeunes du Bayern pour travailler aussi sur ce projet de formation. Et elles se portent plutôt bien, les filles, puisque certaines, là, actuellement, sont en équipe de France jeune. On en a pas mal qui représentent l'Olympique Lyonnais. Et c'est une fierté pour nous de les amener au plus haut niveau. Donc voilà.
D'accord, merci. Et du coup, au quotidien, comment ça se passe au niveau de l'OL Academy et de l'ensemble des joueuses? Déjà, vous avez beaucoup de joueuses?
Oui, alors l'Académie se trouve à mes yeux. Mais c'est une académie mixte. Je parle souvent de l'Académie féminine, mais forcément... Il y a les homologues garçons qui sont avec nous. Et en fait, on vit ensemble sur le même lieu. Donc l'académie représente 140 joueuses et 250 joueurs à peu près qui vont, enfin, on va dire, ça va des U9, donc les toutes petites qui ont 8 ans. U9, c'est, on va dire, la catégorie en dessous de 9 ans, donc 8 ans, jusqu'au U19, donc à peu près des personnes de 18-19 ans. Donc il y a beaucoup de monde sur l'académie, donc ce qui fait qu'il y a beaucoup d'éducateurs et d'éducatrices aussi. Mais par contre, le fait de travailler en mixité, c'est vraiment un atout pour tout le monde, parce qu'on parle souvent d'ouverture d'esprit et de s'ouvrir à l'autre et connaître aussi les différences et les ressemblances aussi du football. C'est vraiment un atout. Et ce projet-là, on le doit aussi beaucoup à M. Aulas, qui a investi aussi pas mal d'argent, on va dire. Hein. Forcément, l'argent, c'est le nerf de la guerre dans le monde professionnel. Mais M. Aulas a été précurseur sur le sujet du football féminin et de la mixité. Et on lui doit beaucoup quand même. Donc, c'est un plaisir de pouvoir côtoyer toutes ces personnes au quotidien.
Et en parlant de côtoiement, justement, est-ce que vous faites appel aux joueuses professionnelles pour donner des conseils, coacher toutes ces jeunes et filles et garçons de l'académie? Oui. Au quotidien,
oui. On a beaucoup de relations avec le monde professionnel. C'est pas juste. Alors, il faut savoir que l'académie des jeunes est à mes yeux. Par contre, le Groupama Training Center, il est juste à côté du Grand Stade, donc du Groupama Stadium. Mais par contre, il n'y a que la Rocade, en fait, qui nous sépare au final. Donc, ce qui fait que les échanges sont assez fréquents. Par exemple, la chance que j'ai, bon, déjà, c'est d'hériter de l'académie, on va dire, féminine, travaillée par Sonia Bonpastor, qui a fait un gros travail là-dessus. Et maintenant, elle est coach de l'équipe première. Et en fait, on a beaucoup d'interactions, je ne vais pas dire quotidiennement, mais au moins de manière hebdomadaire. On a beaucoup d'interactions avec la D1. On a des jeunes qui intègrent le groupe pro, et ce qui fait qu'il y a beaucoup d'interactions là-dessus. Et je vous ai parlé tout à l'heure du match de la Juventus. Quasiment l'intégralité du groupe pro est venue voir le match des jeunes. Donc ce qui fait que c'est important aussi dans ce rapport-là. Tout à l'heure, j'en parlais à Jeanne aussi. J'aimerais, par exemple, inviter Ada Gerbag, je ne sais pas si vous connaissez, mais qui a été blessée pendant, si je ne dis pas de bêtises, 625 jours, et qui reprend là. Et j'espère qu'elle reviendra à son niveau. Et pour aussi sensibiliser les jeunes filles au fait que la blessure, ça fait partie de la vie du sportif ou de la sportive de haut niveau. Et il y a forcément un processus à suivre. Et on aimerait justement pouvoir travailler sur ce type de sujet. Mais effectivement, il y a beaucoup d'interactions et c'est une grande richesse au quotidien.
Pour ceux qui ne connaissent pas Ada, c'est bien la joueuse qui a reçu le premier ballon d'or féminin.
Oui, c'est ça. Ouais. On a la chance de pouvoir l'avoir à l'Olympique Lyonnais.
Ouais.
En plus, son arrivée dans le championnat de France il y a quelques années, je ne sais plus depuis combien de temps elle est au club, Ada, mais ça fait quelques temps quand même, ça a permis de mettre en lumière aussi le championnat de France. Et ce côté offensif, Ada, alors moi je l'ai eu au marquage, je peux vous dire que j'ai passé de très mauvais matchs, parce que c'est vraiment une très très bonne joueuse. Alors j'étais défenseur central, donc j'avais Ada au marquage et elle me faisait passer mes 90 minutes d'enfer. Franchement, des fois, je me souviens lui avoir dit « Mais arrête de courir », parce que franchement, elle était partout et elle avait cette faculté, et elle l'a toujours, de marquer des buts dans n'importe quelle position. Et c'est fabuleux d'avoir ce type de joueuse dans notre championnat, et c'est une richesse pour les jeunes aussi. C'est une guide.
Et donc vous êtes directrice de l'OL Academy depuis juillet.
Oui.
Vous êtes pas mal aidée donc, par l'ancienne directrice Sonia Bonpastor. Oui. C'est un gros changement pour vous, j'imagine. Ça fait quel effet? Un peu de pression, j'imagine, de la direction aussi et du président Aulas.
Alors, pression, on l'a forcément parce qu'on est dans un club de très haut niveau et il faut maintenir justement ce niveau d'excellence. Dans les quatre valeurs qu'on retrouve au club, et on le voit sur les portes, on le voit à l'entrée de l'académie, il y a le respect, il y a l'engagement, il y a l'humilité, et l'excellence. Et en fait, l'excellence, c'est de se dire... Il faut toujours rester au plus haut niveau et rester en mouvement par rapport aux nouveautés ou autres. Et forcément, moi, j'ai rencontré M. Aulas, j'ai eu cette chance quand je suis arrivée. Et il ne m'a pas mis la pression, mais il m'a fait comprendre qu'il fallait maintenir ce niveau d'exigence. Et je pense que je l'ai toujours eu au fond de moi aussi, le côté exigeant, ce côté rigoureux. Et c'est un gros challenge pour moi, parce qu'avant, je travaillais pour développer l'ensemble des clubs de mon secteur, puisque j'étais conseillère technique. Et maintenant, je me focalise que sur ce club-là et sur les différentes équipes. Donc, c'est un autre challenge. Par contre, c'est tout autant excitant parce que quand on voit 14 titres de championne de France, 7 titres de championne d'Europe, malheureusement, l'année passée, le PSG nous est un peu passé devant, mais c'est une erreur de parcours. Hein. Je vous rassure, cette année, ça va être rétabli. Mais voilà, il faut toujours rester en mouvement et on a de beaux projets pour les jeunes et continuer sur cette voie-là.
Vous disiez que vous aviez un peu plus de 200 joueuses, si je me rappelle.
Alors, 140 joueuses.
140 joueuses et
250 garçons. Ouais.
Vous recrutez, vous avez diverses sessions de recrutement par année, chaque année. Oui. Vous, la moyenne environ, vous recrutez.
Il n'y a pas. En fait, déjà, il faut savoir que dès les tout petits, on est vraiment sur du recrutement local. Donc, on est vraiment sur des personnes qui viennent aux alentours de Lyon. À la fois parce qu'on veut développer cette identité et l'ADN lyonnais, parce que c'est important aussi de se sentir appartenir à un territoire et à ce qui s'est fait depuis quelques années. Et puis après, petit à petit, on va à l'échelle régionale, puis après l'échelle nationale. Mais de par la réglementation et de par aussi le fait de ne pas déraciner trop tôt les jeunes, on attend 15-16 ans pour essayer d'aller chercher au niveau national. On a des joueuses qui viennent de la région parisienne. On a des joueuses qui viennent de Marseille, d'un peu partout en France. Par contre, chez les plus jeunes, on a vraiment cette ligne de conduite de travailler sur des joueuses qui viennent sur le côté local. Parce que pour nous, le sentiment d'appartenance et connaître l'histoire de l'Olympique Lyonnais, c'est vraiment important. Mais on n'a pas de nombre à l'année, en fait. Ça dépend des besoins et ça dépend des postes. Et il y a tellement de facteurs à prendre en compte qu'on n'a pas forcément de cahier des charges à respecter à l'année.
Et il y en a beaucoup qui, à contrario, abandonnent, partent en cours de route. Ouais.
Alors, on essaye d'offrir un projet adapté aussi, parce que nous, la priorité, c'est quand même le scolaire, parce qu'on sait très bien que pour devenir une joueuse professionnelle, il y a un chemin. Par contre, on se doit d'offrir un projet scolaire adapté et de se dire qu'une joueuse qui sort du centre de formation doit avoir un bagage scolaire pour anticiper l'après-carrière et aussi se dire, si mon plan A échoue en n'étant pas professionnel, je me dois d'avoir un plan B pour rebondir dans la vie. Et c'est important. Quand je parlais du triple projet sportif, scolaire et citoyen, c'est pleinement dedans. Et on essaye d'être sur des cycles scolaires et de ne pas se dire, on fait venir une fille un an et puis après, on la remercie. Donc, on essaye aussi de travailler là-dessus. Par contre, il y a un gros accompagnement dans le sens où si une joueuse échoue à l'Olympique Lyonnais puisqu'elle n'a peut-être pas le niveau ou elle n'est peut-être pas assez prête, on a un réseau de clubs partenaires où on lui trouve un projet adapté. On les laisse pas comme ça dans la nature partir et être déçus de l'expérience olympique lyonnaise. Après, forcément, des déçus, il y en a toujours, mais malheureusement, c'est le jeu du haut niveau aussi. On se doit, nous, d'être le plus respectueux possible là-dessus.
Vous dites réseau de clubs partenaires, c'est-à-dire ?
Donc, en fait, on a des clubs avec qui on travaille, où on fait des échanges, on va dire, si nous on a des joueurs et des joueuses qui ne sont plus dans le projet olympique lyonnais, des clubs, on va dire, locaux, pour aussi pouvoir travailler. Par contre, au niveau des clubs partenaires, on travaille aussi sur les formations d'éducateurs, sur l'échange de savoir, on les fait venir à l'académie, on travaille aussi là-dessus. Et c'est important aussi de pouvoir tisser des relations avec l'environnement, puisqu'il n'y a pas que l'Olympique lyonnais, et j'ai tendance à dire que le football professionnel n'existe pas sans le football amateur, et inversement, donc c'est important de travailler sur ça.
Des questions sur le parcours.
Parce que des Wanderers ou des bons pasteurs, il y en a pour 50 000. C'est ce que vous allez dire tout à l'heure. Qu'est-ce qu'ils font après ? Vous avez un parcours scolaire qui permettait d'aller ailleurs.
Donc, nous, l'idée, on veut former des championnes. On veut former des filles capables de jouer sur le plus haut niveau national. Par contre, après, parfois, il arrive que dans le cursus de formation, il y a un peu de déception parce qu'on n'arrive pas au niveau attendu. Donc, soit ces joueuses trouvent un autre projet dans un autre club, soit au niveau national, soit autre niveau. Par contre, il y a une continuité dans les études. Nous, on se doit derrière de proposer des formations. On a des joueuses, par exemple, qui, en parallèle de leur pratique foot, font par exemple une alternance ou font des formations qualifiantes pour après travailler sur autre chose. Alors après, libre à elles de faire ce qu'elles veulent, mais certaines choisissent des métiers dans le sport. On a pas mal de filles, par exemple, qui sont encore à la faculté des sports et ont ce statut sportif de haut niveau pour coupler, on va dire, la pratique et les études. D'autres sont sur des études de psychologie, d'autres... c'est un peu vaste, en fait, sur les projets de formation. Par contre, après, on est sur l'accompagnement, mais au bout d'un moment, on peut pas non plus être sur plusieurs années. Mais on tient quand même un suivi de cohorte, j'ai envie de dire, sur les joueuses pour voir si elles réussissent à la sortie du centre de formation, ce qu'elles deviennent et comment nous on peut s'améliorer sur le suivi de ces joueuses-là. Par contre, le niveau, je vais pas dire le niveau, mais le statut de footballeuse professionnelle n'existe pas. Il faut savoir que là on est sur des contrats fédéraux, c'est pas des contrats de joueuse professionnelle, c'est un statut fédéral, donc de la Fédération française de foot. Et donc pour le moment, on ne peut pas comparer, par exemple, un parcours d'un joueur pro avec une joueuse pro, parce que c'est totalement différent. C'est pas du tout le même statut. Donc voilà.
C'est en train d'être amélioré, je crois.
J'espère.
C'est en cours de discussion.
C'est en cours de discussion. Alors après, on avait une avance considérable quand même au niveau de la France sur la formation des jeunes joueuses. Il faut savoir que là, nos voisins anglais, espagnols et italiens sont passés professionnels, ont vraiment le statut de footballeuse professionnelle. Et j'espère justement que ça va se décanter dans les, on va dire, les mois ou les années à venir, parce que c'est un réel enjeu pour la continuité du football féminin professionnel en France. Oui, alors on a une visite par exemple d'ETN tous les ans pour voir si on travaille et si on respecte le cahier des charges de la, on va dire, des centres de formation. Là, dans deux semaines, j'ai une visite avec la DTN parce qu'il y a un pôle espoir féminin. Je ne sais pas si vous connaissez les pôles espoir. C'est comme des sections sportives, mais là, c'est vraiment géré par la Fédération française de foot, qui est maintenant sur le centre de Toulavologe, l'ancien centre de l'OL. Et il y a une visite de la DTN, et là où on a des échanges justement entre les structures fédérales et les clubs pour voir comment on peut améliorer justement la pratique du football féminin. Et aussi peut-être, moi, remettre sur le tapis le fait que nos jeunes soient sortis du championnat pour offrir éventuellement une pratique adaptée pour ces filles, quoi. Mais on est en relation et on travaille de toute façon dans le même but. Après, forcément, il y a ce côté vision fédérale et vision club, et des fois on peut s'opposer, mais au final, au cœur du projet, ça reste les joueuses, donc on s'entend bien là-dessus.
Moi, je suis un éducateur de football. Hein,
oui.
Moi, je suis très attaché au développement, au développer la pratique sportive féminine, parce que là, on a beaucoup de clubs spécialisés au féminin. On a des clubs qui ne sont pas forcément spécialisés au féminin. Et le football, aujourd'hui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Tout dépend de la personne qu'on a en face. Mmh. On a un président qui est ouvert, qui va ouvrir le public féminin, et certaines fois, ben, on a ce public féminin et masculin qui s'enchevauchent, et c'est pas... voilà, comment les clubs, les grands clubs, hein, par le UEL, par le PSG, essayent de se confronter pour essayer de répondre un petit peu à ces problématiques, hein.
Alors, quand on a un grand club, la chance, c'est que c'est les joueuses qui viennent vers le club. Quand on a un club de, on va dire, peut-être en milieu rural ou un club à moindre niveau, il faut travailler pour aller chercher ses filles. Et parfois, c'est là où c'est un petit peu complexe. Par contre, après, la mixité, ça apporte tellement de choses, à la fois dans les échanges, dans la pratique, ou justement sur ce côté insertion, ce côté un peu social aussi. Je pense que c'est important, mais c'est aussi du rôle, à mon sens, d'avoir un projet club, d'avoir un projet aussi municipal, parce que parfois ça peut être impulsé par la mairie, de travailler là-dessus. Mais je pense que, en plus on en a parlé tout à l'heure, les filles peuvent jouer avec les garçons quand elles en ont l'opportunité jusqu'à 15 ans, donc ce qui fait qu'on peut travailler sur la mixité sur les plus petites catégories, et après tendre sur du spécifique. Par contre, effectivement, il faut que ce soit une réelle volonté, et j'ai tendance à dire que l'ouverture d'esprit, c'est pas une fracture du crâne, en fait. C'est juste essayer de voir ce qui se passe ailleurs et de se dire comment on peut faire cohabiter les hommes et les femmes dans une même pratique. Alors qu'au final, le but, c'est que chacun puisse être épanoui et trouver sa passion dans un club à proximité. Alors, au niveau de la Fédé, puisque j'y ai bossé, je sais qu'on travaille beaucoup là-dessus, sur le déploiement des écoles féminines de football via un label, qui est un label, on va dire, qualité, pour travailler sur la valorisation de ce qui est fait en club. On aimerait qu'il y ait, on va dire, une école féminine de football tous les 10-15 km pour offrir de la proximité. Mais effectivement, dans certains territoires, c'est encore un peu trop inégalitaire, puisqu'il n'y a peut-être pas assez de demandes. Et après, c'est le jeu de l'offre et la demande. Et ça, c'est un petit peu plus compliqué à cerner, quoi.
Justement, il y a plus d'écoles pour le foot masculin que pour le foot féminin.
Ah, disons que le football reste un sport populaire et que chez les garçons, on a moins besoin de travailler pour avoir des licenciés que chez les filles. Alors, un petit conseil pour ceux qui veulent développer le football féminin. Où est-ce qu'on trouve les licenciés? Ben, dans les écoles, dans les centres de loisirs, dans tout ça. Donc, il ne faut pas hésiter de temps en temps à justement frapper à la porte et essayer de mettre en place des cycles pour essayer de travailler et essayer de développer ça. Ça a bien fonctionné. Après, ayez un référent ou une référente qui soit convaincu de l'intérêt de la pratique féminine, parce que des fois on fait venir du monde et après derrière il n'y a pas de suivi, donc il faut bosser là-dessus, quoi.
Vous avez des questions pour une école de pouce féminine?
Oui, bien sûr. Oui, dans le développement de l'OCPB,
ça marche.
Juste après, donc on va aller, vous allez visionner donc le documentaire Les joueuses, hashtag pas là pour danser. Je ne sais plus si vous l'avez vu ou pas.
Alors moi, je l'ai vu, mais je pense que Jeanne saura mieux en parler que moi.
Ouais. Nous raconter un petit peu la jeunesse de sa place. De ce projet, de ce film.
Moi, j'ai une petite question.
Pardon
de rentrer dans le film. Deux questions. Une pour recontextualiser. Combien il y a aujourd'hui de clubs de foot en D1 en France? Hommes.
Femmes.
Excusez-moi, d'abord hommes.
Ouais.
Ah oui, hommes.
On est sur 20, ouais.
On est sur 20.
Et femmes.
12.
D'accord. Voilà, c'est juste pour que.
D'accord. Après, si je peux me permettre, il y a encore parfois un écart et un fossé entre la D1 et la D2 féminine, surtout en termes de structuration. Et c'est surtout dû aux moyens. Il y a des clubs très structurés, dont l'Olympique Lyonnais en fait partie. Et il faut qu'on maintienne ce niveau d'exigence. Et même à l'intérieur même de la D1, on a des clubs qui ont des budgets vraiment très serrés. Et en termes de structuration, c'est très compliqué. Donc, pour l'instant, on a 12 équipes. L'idée, forcément, c'est d'essayer de se rapprocher du modèle masculin, peut-être en augmentant. Mais ça ne servira à rien pour le moment si c'est pour faire monter des équipes qui ne sont pas structurées et avoir des scores fleuves. Alors, l'idée, c'est que j'ai tendance à dire, pour respecter un adversaire, s'il faut en mettre 10, 12, 13, peu importe, il faut les mettre. C'est comme ça, c'est la loi du haut niveau. Par contre, effectivement, dans le côté attractif du sport féminin, quand on regarde les résultats le week-end en disant « Ah, il y a encore eu un 6, il y a encore eu un 7-0 », des fois, ce n'est pas vendeur, en fait. Et on aimerait que le fait de réduire les écarts, ce soit plus spectaculaire et donc plus attractif. Plus attractif, donc plus de sponsors, donc plus d'argent. C'est un cercle vertueux, mais après, on continue le combat. Donc, ouais.
Et puis, par exemple, aux États-Unis, c'est la compétition... Le foot féminin aux États-Unis, c'est au-dessus que le football. Et ils sont que 10 hein, en NWSL. Il n'y a que 10 équipes, donc elles s'affrontent plusieurs fois dans la saison. Et pourtant, ça reste la compétition la plus attractive en foot féminin. Donc, le nombre d'équipes, c'est différent. Et nous, on a une équipe.
Je suis d'accord, mais pourquoi prendre plus de l'argent plus de fort. Comme ça se passe, en D1. Okay, deux équipes, parce que dans une équipe qui domine le championnat, et puis derrière, il n'y a plus rien parce qu'il n'y a pas de sous. C'est même plus intéressant de regarder ça.
Après, en fait, si je prends par exemple, alors je ne vais pas parler d'argent parce que je n'ai pas les chiffres et j'ai pas envie de dire de bêtises, mais le budget d'une section féminine dans un budget global d'un club, c'est vraiment rien. Et en fait, ça reste, quand on parlait de volonté, ça reste la volonté aussi d'investir un peu parce qu'après, effectivement, les joueuses, si on veut qu'elles soient professionnelles, il faut les payer aussi. Donc derrière, pour s'investir, il faut aussi qu'elles puissent avoir des conditions décentes pour s'investir pleinement. Par contre, là où je parle de moyens, c'est ce côté, on mise sur l'élite, mais parfois un peu moins sur la masse, alors qu'un club, pour qu'il vive, il faut vraiment que la masse soit bien travaillée pour après les amener vers le plus haut niveau, et ça reste un projet de formation. Et c'est ça, en fait, qui parfois me dérange, c'est qu'on mise tout là-haut, et en bas, c'est comme parfois dans les clubs, on ne met pas forcément les meilleurs éducateurs chez les tout-petits, alors que chez les tout-petits, c'est là où il y a vraiment des besoins, parce qu'on est sur ce côté développement moteur et tout ça, donc il faut aussi miser... sur les bonnes catégories, ça c'est
simple. Ça change de mentalité, ça ne prend pas d'indicateur. Moi, j'apprenais, moi, je me suis déçu. Après, c'est les patients, c'est les petits, c'est pas les grands. Je trouve que les grands ils sont arrogants, ils sont pas simples. Et effectivement, pour qu'on arrive à un niveau de l'élite, on essaie de sortir des gamins pour vraiment que ça ne passe par la base.
Mmh.
Et moi, je me bats pour ça.
Ah oui.
Les éducateurs de qualité, c'est la base, c'est pas
plus. Non, c'est très bien. Non, c'est important parce que. Les petits, c'est comme à l'école, hein, c'est comme si on mettait des enseignants qui n'étaient pas diplômés, et ça serait un petit peu compliqué. Et les petits ont besoin justement d'accompagnement, une pédagogie adaptée. On ne parle pas à un petit comme on parle à un plus grand, donc forcément. Et puis une connaissance de l'enfant assez fine pour connaître après comment développer certaines qualités. Et puis le petit ne fait que grandir et au cours lui, son évolution, il faut lui apporter... En fait, c'est comme s'il avait une caisse à outils vide, et petit à petit, on vient lui mettre les outils nécessaires, et après, il s'en servira, il fera ses choix sur le terrain, pour après être le plus performant possible, mais effectivement, chez les tout-petits, et ça, c'est vrai, ça a été vraiment mon cheval de bataille pendant des années, c'est vraiment travailler sur la formation des éducateurs, éducateurs à la base. Mais ne pas oublier que la notion de plaisir chez l'enfant, c'est à la base, on joue pour gagner, oui, mais moi, quand je vois un enfant sortir du terrain pleurant, c'est que quelque chose a été oublié. Mais bon, ça, c'est autre chose. Hein, tu...
Et justement, vous lui dites quoi à cet enfant pour lui redonner la pêche et envie de continuer
Tu lui dis d'aller ramasser les coupelles, il est content. Non, je rigole. Non, alors, l'enfant a cette capacité à vite switcher, à vite passer à autre chose. Par contre, en fait, il faut faire en sorte, effectivement, dans le discours, de dédramatiser la défaite. C'est pas le... On a perdu, oui, mais tu as bien joué, ça, tu l'as bien fait. Et retenir que le positif, en fait. Et en fait, si on se consacre qu'au résultat, on n'y verra que ça, mais la manière n'y sera pas. Et donc, dans l'apprentissage, en gros, c'est comme si je mettais un long ballon devant, on marquait en deux passes, alors que la manière de jouer, c'est que tout le monde doit toucher le ballon de manière cohérente pour atteindre le but. Et moi, je reste persuadée que le football éducatif, donc le football des enfants, il doit être pris au sérieux, mais par des personnes qui en sont convaincues et qu'il y a des phases dans l'apprentissage. Et tout à l'heure, j'en parlais, c'est comme quand on veut faire du pop-corn. On met du maïs dans une casserole. Et en fait, à la fin, tous les grains deviennent pop-corn, mais pas à la même vitesse. Et en fait, le moment de faire pop, il arrive. Mais il faut être patient. Et la patience, ça, c'est vraiment important. Il faut faire attention au rythme.